VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 24 août 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Arnold Butson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, arrestation de manifestants par la police à Butembo. Ils protestaient contre l'insécurité croissante dans leur ville.
Pas de quartier à Joseph Kabila, assure le chef de l'opposition congolaise Félix Tshisekedi dans une interview à VOA Afrique. Ce sera en seconde partie de cette édition.
Au Maroc, près de 300 personnes ont manifesté hier à Casablanca pour dénoncer l'agression sexuelle collective dont a été récemment victime une jeune femme.
En Libye, au moins 9 combattants et 2 civils ont été décapités hier dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique.
Aux Pays-Bas, arrestation du chauffeur d'une camionnette espagnole avec des bouteilles de gaz.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la police a dispersé hier à coups de gaz lacrymogène des manifestants à Butembo dans le nord-est de la RDC. 25 personnes ont par ailleurs été arrêtées. Des détails avec John Lyndon.
Selon le colonel Richard Mbambi, chef de la police de Butembo, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors que d'autres tentaient de barricader les rues ou jetaient des pierres aux policiers. Il a confirmé l'arrestation de 25 personnes pour trouble à l'ordre public et a assuré qu'elles répondront de leurs actes. Un responsable de la société civile de Butembo, Edgar Matezo, a expliqué de son côté que l'interpellation a eu lieu lors d'une manifestation d'habitants qui entendaient protester contre la recrudescence de l'insécurité dans cette ville commerciale de plus de 1,1 million d'habitants. La manifestation a eu lieu à la suite d'une attaque menée par des bandits contre des habitants dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont emporté des biens de valeur. Les manifestants ont également dénoncé la lenteur des forces de sécurité pour intervenir. Depuis le début de l'année, les habitants de Butembo dénoncent régulièrement l'insécurité grandissante dans cette ville du Nord Kivu, une région déchirée par des conflits armés depuis plus de 20 ans.
Les Angolais se sont rendus aux urnes hier dans des élections générales. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, est donné largement favori sur les 6 listes en présence. Après 38 ans au pouvoir, le président Eduardo dos Santos a décidé de prendre sa retraite. Quel bilan pour M. dos Santos, dont la fille Isabelle est présentée comme la femme la plus riche du continent. Idriss Fall a joint à Luanda Fiona Casimiro, un ancien journaliste.
Son bilan, de mon point de vue, est assez mitigé, avec des éléments qui sont favorables comme la paix, une certaine stabilité et, disons, certains développements, un boom économique, surtout dans la dernière décennie. Mais évidemment, le pouvoir s'est terminé un peu dans des notes népotiques accentuées, avec la richesse de la famille, et qui leur coûte cher d'ailleurs dans l'antipathie et dans l'hostilité, surtout de l'électorat jeune, et même d'un certain électorat un peu même traditionnel du peuple MPLA, n'ont pas beaucoup aimé cette inclination népotique du pouvoir et la concentration des richesses dans ce groupe.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annulé mercredi la tenue du Conseil des ministres hebdomadaire qui devait être son premier rendez-vous avec le gouvernement depuis son retour au Nigeria après un congé maladie de plus de 3 mois. Le président, qui a repris officiellement ses fonctions lundi après avoir délégué ses pouvoirs à son vice-président Yemi Osinbajo pendant plus de 100 jours, a travaillé depuis la maison, selon ses proches, évitant d'évoquer son état de santé fragile. Le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a expliqué à l'AFP que M. Buhari ne pouvait pas se rendre à son bureau car, je cite, « des rongeurs avaient envahi les lieux pendant son absence ».
Au Maroc, près de 300 personnes ont manifesté hier à Casablanca. Elles dénonçaient l'agression sexuelle collective dont a été victime une jeune femme dans la métropole économique. Une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique. Diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, une vidéo montrait un groupe d'adolescents hilares bousculer violemment une jeune femme en pleurs dans un bus en plein jour, essayant de la déshabiller et touchant ses parties intimes. Les 6 agresseurs, tous mineurs, ont été arrêtés.
Au moins 9 combattants et 2 civils ont été décapités hier en Libye dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque a été perpétrée contre une position des forces loyales à Khalifa Haftar. Le groupe État islamique dit avoir tué et blessé 21 combattants de l'armée nationale libyenne, autoproclamés par le maréchal Khalifa Haftar. L'ANL s'est emparée début juin du sud de Tripoli, qui compte une base militaire aérienne. Les forces loyales au maréchal Haftar accusent leurs rivaux de terroristes et attribuent souvent les attaques au groupe État islamique. Haftar a annoncé début juillet la libération totale de Benghazi. Cependant, des affrontements continuent dans le centre de la ville. La Libye est déchirée par des conflits entre milices et 2 autorités rivales. Le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, qui est confiné à Tripoli, et une autorité dans l'Est avec le soutien du maréchal Haftar.
Les relations entre l'Égypte et les États-Unis, qui s'étaient améliorées avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, semblaient tendues hier, après que Washington a gelé ou réduit une partie de l'aide américaine en raison de préoccupations sur les droits de l'homme. Les États-Unis ont réduit de presque 100 millions de dollars leur assistance économique et militaire et retardé un financement militaire portant sur quelque 200 millions de dollars, ce que le Caire a qualifié d'erreur de jugement. Mais la réunion entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et une délégation conduite par Jared Kushner, le gendre du président Trump, a eu lieu au Caire, bien qu'on ait annoncé auparavant l'annulation de cette rencontre.
En Afrique du Sud, un gang armé a libéré 20 détenus à Johannesburg lors d'une embuscade contre le camion de police qui les transportait du tribunal vers la prison, a indiqué mercredi la police. Parmi les prisonniers qui se sont évadés, certains sont poursuivis pour vol à main armée, cambriolage et détention de drogue, a précisé le porte-parole de la police. La plupart des détenus étaient en attente de procès, mais l'un d'entre eux purgeait déjà une peine de 17 ans de prison pour vol à main armée. Les 20 prisonniers étaient toujours en cavale mercredi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a lancé un appel pour une nation plus unie encore lors d'un discours hier à Reno dans le Nevada. Il est temps, a-t-il dit, de guérir les blessures qui nous divisent. M. Trump s'adressait à une convention d'anciens combattants américains. La veille à Phoenix, dans l'Arizona, Donald Trump avait tenu un discours qui, selon les observateurs, tendait plutôt à diviser. Il s'en était pris violemment aux médias, aux élites et à Washington, dénonçant ce qu'il avait appelé la malhonnêteté de nos confrères après sa réaction aux violences de Charlottesville entre tenants de la suprématie blanche et contre-manifestants.
Les responsables palestiniens ont réclamé mercredi une prise de position claire de l'administration Trump en faveur de la création d'un État palestinien indépendant. C'est ce qu'ils ont dit hier à l'AFP, à la veille d'une visite à Ramallah d'émissaires du président américain, dont son gendre Jared Kushner. Les responsables palestiniens veulent aussi que l'administration Trump s'oppose à la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Ces deux questions sont parmi les principaux obstacles dans le processus de paix israélo-palestinien suspendu depuis 2014.
En Syrie, les civils bloqués à Raqqa, fief du groupe État islamique, sont pris au piège dans un labyrinthe mortel, c'est une citation, en raison des combats intenses visant à chasser les djihadistes. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Amnesty International. Depuis leur entrée en juin à Raqqa, les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis, les forces démocratiques syriennes donc ont chassé l'organisation État islamique de 60% de la cité qu'elle contrôle depuis 2014.
La police de Rotterdam a annoncé avoir arrêté le conducteur d'une camionnette immatriculée en Espagne et contenant des bouteilles de gaz, retrouvée mercredi soir après l'annulation d'un concert dans la cité portuaire de l'ouest des Pays-Bas par crainte d'attentat. Le conducteur espagnol de la camionnette a été arrêté et emmené au commissariat de police. Il est entendu, a indiqué la police de Rotterdam sur Twitter.
Les séparatistes qui combattent dans l'est de l'Ukraine ont décrété hier un nouveau cessez-le-feu qui entrera en vigueur à partir de vendredi en raison du début de la nouvelle année scolaire le 1er septembre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Le gouvernement ivoirien a plafonné le prix de certains produits, dont le riz, l'huile, le sucre, la tomate concentrée et le ciment, pour lutter contre la cherté de la vie. 25 000 affiches ont été placardées pour sensibiliser les commerçants et opérateurs économiques dans tout le pays. Les contrevenants courent une amende allant de 100 000 à 50 millions de francs CFA, outre la saisie de marchandises ou la fermeture du point de vente. La Banque africaine de développement annonce dans un communiqué avoir exclu le groupe chinois Chongqing Construction de toute éligibilité à ses financements pour une période minimale de 12 mois. D'après une enquête de la BAD, la compagnie s'est engagée dans une pratique frauduleuse dans le cadre d'un appel d'offres pour l'attribution d'un projet routier en Ouganda. Elle a fait passer un tronçon de 4,4 km pour 68 km et exagéré la valeur de ses contrats de référence. Pas question de laisser la compagnie aérienne sud-africaine SAA faire faillite. C'est la déclaration hier au Parlement sud-africain du ministre adjoint des Finances. La South African Airlines a demandé au gouvernement une nouvelle rallonge de 13 milliards de rand pour lui permettre de continuer à opérer malgré un déficit qui persiste depuis plusieurs années.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afro-basket dames se poursuit au Mali.
Et oui, la cinquième et dernière journée, hier à Bamako, la République démocratique du Congo a battu la Guinée, 84 à 37, l'Égypte qui domine le Mozambique, 91 à 70, et puis la Centrafrique à nouveau battue, cette fois par l'Angola, 58 à 96. La Tunisie s'impose de justesse, 69 à 64 contre la Côte d'Ivoire, et puis le Mali qui domine le Cameroun, 69 à 35. Enfin, dans le groupe B, c'était le dernier match de la soirée. Le choc entre le Sénégal et le Nigeria. Il a tourné à l'avantage des Nigérianes qui l'ont emporté 58-54. On retrouve sur place Amdinsi pour VOA Afrique.
Le Nigeria a fait chuter le Sénégal champion en titre au terme de match épique. En effet, le choc de cette cinquième et dernière journée a tenu toutes ses promesses. Pourtant, le Sénégal a bien entamé cette rencontre en ouvrant les hostilités sur un tir pris Médaïa Traoré. Mais la réponse n'a pas tardé du côté nigérian. Les filles de Saint-Vincent, grâce à une défense agressive, vont dominer les débats en remportant les deux premiers cartons, 14 à 11 et 34 à 26. À la reprise, Adora Elounou et ses partenaires vont maintenir la cadence en gagnant le troisième acte par 48-41. Le quatrième et dernier carton sera âprement disputé, mais le Nigeria, grâce à un jeu physique, va remporter le money time avec 4 longueurs, 58 à 54. Avec ce succès, le Nigeria conserve non seulement son invincibilité, mais garde la première place du groupe. Le Sénégal, pour sa part, se contente de la deuxième place. Bamako, Amédici, Zéro Afrique.
Barrage retour de la Ligue des Champions.
En bonne posture après le match aller, Liverpool n'a pas flanché contre Hoffenheim à Anfield Road avec un large succès 4 buts à 2. Les Reds retrouvent donc la C1. Le club allemand est reversé en Ligue Europa. À Bucarest, le Sporting Portugal a étrié le Steaua 5 buts à 1 et s'est sereinement qualifié pour la phase de groupe. Karabakh est devenu le premier club azéri de l'histoire à réussir pareille performance en éliminant le FC Copenhague malgré une défaite 2 buts à 1. En Russie, le CSKA Moscou n'a pas tremblé face aux Young Boys de Berne. Déjà vainqueur à l'aller 1-0, les Russes l'ont emporté 2-0 à domicile. Enfin, la Poel Nicosie a courbé les Chines à Prague face au Slavia. Match nul 0-0, suffisant après l'avoir emporté à l'aller 2-0.
Et le tirage au sort de la phase de poule, c'est tout à l'heure.
Oui, le pot 1 est constitué par le double tenant du titre, le Real Madrid, et les 7 champions des nations les mieux classés à l'indice UEFA. Le Paris Saint-Germain qui vient de déposséder Barcelone de sa star brésilienne Neymar figure dans le pot numéro 2. Les Parisiens pourraient ainsi affronter le Real ou la Juventus Turin, finaliste la saison dernière, ou encore le Bayern Munich dès le premier tour.
Wayne Rooney tire sa révérence avec la sélection anglaise.
Eh oui, Wayne Rooney veut désormais se concentrer sur son nouveau club d'Everton après 119 sélections. Le meilleur buteur de la sélection d'Angleterre raccroche après 53 buts inscrits en sélection d'Angleterre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, il n'est pas question de faire deux quartiers au président Joseph Kabila, a déclaré Félix Tshisekedi lors de son passage dans les studios de VOA Afrique à Washington et réagissait à l'annonce de l'envoi d'un émissaire spécial de la SADC en RDC. Dans une interview avec Eddie Isango, le président du Rassemblement de l'opposition congolaise annonce que la seule option maintenant pour le président Joseph Kabila, c'est de quitter le pouvoir le 31 décembre comme prévu par l'accord politique. Félix Tshisekedi.
Ce que nous disons, nous, à cet émissaire qui est le bienvenu, il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de quartier à faire à Joseph Kabila. Il a eu l'occasion en 2016 d'organiser les élections et partir avec des honneurs. Il ne l'a pas fait. Il a réussi à sauver sa tête grâce à l'intervention de la CENCO qui a évité le bain de sang et grâce à l'implication du défunt notre leader, Étienne Tshisekedi. Il a encore gaspillé cette chance. Maintenant, nous disons, ça suffit. On ne peut pas continuellement comme ça redonner tout le temps des occasions à quelqu'un qui manifestement est de mauvaise foi pour qu'il continue à prendre le peuple tout entier en otage. C'est inacceptable pour nous. La limite, c'est le 31 décembre. Et bien avant ça, nous allons commencer à monter en puissance la pression pour que le 31 décembre, nous n'ayons plus Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo.
Le ministère vient avec une proposition sur la table. Ils ont demandé à la CENI de publier un calendrier révisé parce que c'est quasiment impossible d'organiser les élections.
Écoutez, laissez d'abord venir cet émissaire. Je crois que c'est la moindre des choses d'attendre d'avoir pris connaissance de ces propositions avant, évidemment, de réagir. Donc à ce stade, je ne suis pas capable de vous donner quoi que ce soit comme réaction parce que nous n'avons pas encore vu ce qu'il a dans le ventre, cet émissaire. Il faudrait d'abord commencer par le désigner. On dit que c'est un ancien chef d'État. Bon, on verra.
À la presse congolaise notamment, vous avez dit que vous n'êtes ni demandeur ni preneur.
Je l'ai dit dans un tweet. Oui.
Oui, dans un tweet aussi que j'ai ici même. La presse congolaise parle des contacts avec la majorité présidentielle, notamment en vue de votre nomination comme Premier ministre. Ne serait-ce pas là la solution?
Il peut se garder les pantins qu'il a désignés, tant le Premier ministre que celui qui vient de désigner au CENSA. Nous, l'importance maintenant, nous la mettons sur le processus électoral. Nous voulons nous impliquer, nous allons le faire, nous invitons la communauté internationale aussi à y aller parce que, comme vous pouviez vous l'imaginer, les prétextes ont commencé de manque d'argent, etc., que la communauté internationale s'implique et nous permette d'aller à des élections crédibles. Et comme ça, nous aurons l'alternance, nous n'aurons même pas besoin d'aller dans le gouvernement ou au CENSA, etc. Donc on a maintenant le processus électoral lui-même, les élections qui vont nous amener à l'alternance.
Là, ne rejoignez-vous pas la SADC qui parle d'impossibilité, vous reprenant ce que la CENI avait déjà annoncé.
Pourquoi est-ce que la SADC a dit ça? Est-ce qu'elle a fait une expertise au préalable pour conclure à cela? Je ne sais pas.
C'était Félix Tshisekedi dans les studios de VOA Afrique, ici à Washington.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Tchad, projet innovant et prometteur pour convaincre les bailleurs de fonds à la table ronde de Paris prévue du 6 au 8 septembre 2017. Mais déjà l'opposition politique et la société civile émettent des réserves sur les éventuelles conclusions. De N'Djamena, André Kotmadjingar.
À 3 semaines de cette messe internationale en faveur du Tchad, plus de 300 projets sectoriels compilés dans un document, le plan national de développement PND, sont déjà prêts à présenter aux partenaires. Selon le ministre de l'économie, de la planification et du développement, Ngueto Yambaï, cette politique de développement est un financement projet par projet et non un appui budgétaire au trésor.
Les projets publics adoptés par les comités des experts s'apprécient à environ 4 000 milliards et nous mobilisons déjà à ce jour des projets privés d'un montant approximatif effectivement à 3 000 milliards. Le fait que le financement du PND soit un financement par projet, pour qu'un projet soit financé, il faudrait qu'il soit crédible, réaliste et bancable.
Ces projets comportent quatre axes, notamment le renforcement de l'unité nationale, de la bonne gouvernance et d'un état de droit, le développement d'une économie forte et compétitive, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. Mbaira Sen Ismaël, économiste, membre de la société civile, se dit pessimiste quant à la gestion de ce projet si les bailleurs de fonds arrivent à les financer.
Entre les politiques annoncées et les politiques mises en œuvre ici au Tchad, il y a toujours des différences. C'est ce que les économistes appellent l'incohérence temporelle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a eu déjà une conférence des bailleurs à Paris pour le financement du plan 2013-2015. Beaucoup de ressources ont été mobilisées, plus de 1 000 milliards de francs CFA. Mais qu'a-t-on fait de toutes ces ressources?
L'opposition politique menace d'envoyer une délégation à Paris pour une contre-conférence si le président Déby ne prend pas en compte sa principale revendication. Saleh Kebzabo est le chef de l'opposition politique tchadienne.
Nous sommes pour que les partenaires aident le Tchad à sortir du marasme. Mais il ne faut pas que nos partenaires se trompent entre Idriss Déby et le Tchad. C'est le Tchad qui mérite d'être aidé. Il faut aussi des conditionnalités politiques. Si le gouvernement s'enferme dans sa logique d'exclusion, nous n'excluons pas la possibilité de l'envoi d'une délégation de l'opposition à Paris pour une contre-conférence en rapport avec la société civile.
Pour Madeleine Alingui, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vu la crise financière et économique que traverse le pays, un homme politique soucieux du bien-être de la population ne parle pas comme ça.
S'il est du droit de l'opposition de se prononcer sur les sujets qui touchent le pays, cet exercice doit se faire dans la responsabilité et le sérieux nécessaire au rôle. Il est même surprenant que M. Saleh Kebzabo conditionne la tenue de la table ronde à des revendications politiciennes et partisanes.
André Kodimadingar Ndjamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, les banques et assurances en sont aujourd'hui à leur troisième jour de grève. Ce débrayage fait suite au licenciement jugé abusif d'un leader syndical, mais plusieurs fonctionnaires dont le salaire est viré directement à la banque ne sont pas contents. Et puis la Tabaski, la fête musulmane du mouton, avec toutes les dépenses familiales qu'elle implique, approche. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est à une semaine de la fête de mouton que les travailleurs des banques et assurances ont décidé d'aller en grève de 72 heures. Cette manifestation est un soutien au secrétaire général du comité syndical de NCA Mali. Ce dernier a été licencié pour avoir demandé le paiement de l'IST des travailleurs. Les clients des banques se plaignent de la grève.
Par rapport à la grève des banquiers, le moment est mal choisi par rapport à la cherté de la vie aujourd'hui. On est en fin de mois pour le paiement des salaires. Quand on regarde tout où les fonctionnaires de l'État sont payés par virement bancaire, du trésor à la banque. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui va se poser aujourd'hui au niveau national. C'est un moment qui est mal choisi. Surtout, c'est une fête qui est là. Ils devraient attendre qu'au moins après la fête ou bien faire des concertations pour pouvoir aller en grève.
Il y a d'autres voies qui ne sont pas les voies de grève autres là. Il y a la voie juridique, le tribunal administratif est là. Quelqu'un a été injustement licencié. Il y a les voies de recours dans ce sens. Mais pas amener toutes les banques ou tous les établissements financiers en grève, ça, vraiment, ça paralyse le pays. Je suis carrément, j'ai le moral au talon, parce que je n'ai pas d'argent pour payer les moutons, je n'ai pas d'argent pour payer les habits de veste pour les enfants.
Certains Bamakois trouvent que cette grève est justifiée, dans la mesure où il s'agit d'une violation des libertés syndicales.
Moi, je trouve leur grève un peu noble, et je pense que c'est tout à fait normal que les institutions financières, vu que les travailleurs ont beaucoup été victimes de licenciements illicites, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, les syndicalistes se mobilisent pour se défendre contre certains faits qui ne répondent pas aux critères de leur terme de contrat.
Oui à la grève des travailleurs des banques et établissements financiers. Oui au soutien à leurs camarades du NCA. Mais ils ont oublié d'assurer les services minimums.
Moi je pense qu'ils sont dans leur droit de gréver. Mais ce que je déplore un peu, c'est le fait que le service minimum n'est pas assuré dans les banques et assurances. Surtout à quelques jours de la fête, ça paralyse beaucoup l'économie. Et surtout nous, les citoyens. matin, ça nous fatigue trop. J'ai été à l'éco-banque, vu que tout était fermé. C'était le guichet automatique seulement qui fonctionnait. Bon, il y avait toute une foule là-bas. J'ai dit que la grève, c'est noble, mais le service minimum devrait être respecté.
Pour le syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, en plus du licenciement jugé abusif du secrétaire général du comité syndical de NCA, il y a d'autres violations. Amadou Mba, secrétaire administratif du SINABEF.
On licencie un syndicaliste parce qu'il a revendiqué un droit légitime. D'ailleurs, les camarades ne sont même pas rentrés dans leurs droits. Là-bas, à NCA, on les insulte comme des malpropres. Vous rien, incompétents, nous on va vous renvoyer, vous allez voir, vous êtes des nuls. Un directeur qui s'adresse comme ça à ses employés. La seconde chose que nous avons constatée chez nous, c'est que tous les travailleurs de NCA qui ont observé le sitting, ils ont été sanctionnés par la direction de NCA. Vous voyez quel mépris, tous les travailleurs.
Ce mot d'ordre de grève de 72 heures a concerné l'ensemble du secteur des banques et établissements financiers du Mali avec des conséquences incalculables pour les populations, surtout en cette veille de fête de moutons. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Visite de VOA Afrique dans le sud-ouest des États-Unis, au Texas, le long de la frontière mexicaine, l'un des points de passage favoris des sans-papiers qui viennent d'Amérique latine. Cherchant à immigrer aux États-Unis, les populations hispaniques ne sont pas cependant les seules à tenter leur chance. À leur côté, beaucoup d'Africains s'engagent, eux aussi, dans ce dangereux périple. Pour nous en parler, Morgan Guiriec a joint sur place notre envoyé spécial, Arzuma Compaoré.
Alors, la plupart est arrivée par voie aérienne depuis l'Afrique, que ce soit le Bénin, l'Éthiopie, le Nigeria. Ils arrivent la plupart au Brésil. Et puis commence le long voyage en fait pour arriver jusqu'aux États-Unis. Ils passent après le Brésil, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, pour arriver ensuite au Mexique. Et puis ils se rendent maintenant au niveau du centre d'immigration où ils demandent en fait l'asile.
Ce périple hein, est déjà difficile pour les populations latino-américaines, à plus forte raison pour les Africains.
C'est un périple mortel pour beaucoup. Certains, par manque de moyens, voient leur voyage en fait se prolonger de plusieurs mois. Certains sont obligés même de rester travailler pendant des années afin de pouvoir refaire l'argent parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Ils sont très souvent en fait dérobés. La forêt amazonienne reste quand même l'étape la plus mortelle. On a rencontré un ressortissant du Bénin. Ils ont traversé pendant 5 jours la forêt au niveau de la Colombie. Il n'y avait pas d'eau. Ils se nourrissaient uniquement avec des biscuits qu'ils avaient pu garder avec eux dans leur sac. Il y a des familles qui viennent aussi avec leurs enfants. Mais ils se retrouvent face à une situation où ils ne peuvent plus vraiment faire marche arrière.
D'autant plus qu'il y a la barrière de la langue. On parle surtout espagnol dans ces pays.
Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se débrouiller. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils apprennent quelques mots. Et ce qui est assez surprenant, la plupart d'eux se débrouillent très bien en espagnol. Il faut bien développer des stratégies pour survivre et créer des liens avec une ou deux personnes pour pouvoir s'en sortir lorsque, par exemple, les bandits vous attaquent et qu'il faut, il faut s'enfuir ensemble. Si vous n'avez pas le courage et que vous restez sur place pendant que les autres avancent, vous êtes perdu et puis vous pouvez rester dans la forêt pendant des jours et à tourner en rond. Il faut rester accroché aux autres.
Il y a la guerre des gangs dans certains de ces pays.
Certains cartels sont organisés aussi pour dépouiller justement ces immigrants. Quand on sait que vous êtes africain et que vous venez, vous ne parlez pas la langue, vous devenez une cible. La plupart se retrouvent à arriver aux États-Unis vraiment avec... avec rien du tout, juste leur courage et leur espoir. Que lorsque ces réfugiés arrivent et qu'ils demandent maintenant l'asile, ils sont mis en détention en attendant que leur demande d'asile puisse aboutir. Les hommes et les femmes sont séparés parce que les femmes ne peuvent pas, selon la loi, rester en prison. Les femmes enceintes ou les femmes accompagnées d'enfants faire le sacrifice d'être séparées pendant de longues périodes avant éventuellement de pouvoir se retrouver ensemble lorsque la situation de leur demande d'asile est résolue.
Notre envoyé spécial dans le sud-ouest des États-Unis, Arzuma Compaoré.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur le tourisme en Afrique. Est-il un secteur d'avenir?
Comment le développer? Quels sont les pays les plus courtisés et ceux au potentiel inexploité? Qu'est-ce que le tourisme apporte à nos populations? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.